d'accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé de marquer un sport en guerre. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en grève,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vendredi, il est 19h09, on est presque pas trop en retard. Et du coup, c'est l'heure du Canu Info du vendredi.
Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'on m'entend ?
Oui.
On m'entend dans les micros, je suis incroyablement content. Et ben c'est cool. Il est 19h09, ne nous écoutez pas, rejoignez-nous. Il y a depuis 18h30
un rassemblement contre l'extrême droite, tous les fachos et du coup la police qui va avec, qui est un rassemblement à l'appel de Fermont Léoco-fasciste et de tout un tas d'autres groupes et collectifs. On pourra vous faire suivre à partir de 19h30 en direct avec le téléphone, si tout marche bien, évidemment.
Absolument. Ensuite, on a la chance d'accueillir une camarade de l'Alpi avec qui on pourra s'entretenir d'un certain nombre de sujets relatifs à la question du logement aujourd'hui, notamment de ces enjeux sur en termes de droits et de nouvelles lois qui nous pourrissent la vie.
Et puis, on vous fera passer un petit reportage sur la grève des contractuels qui entretiennent les collèges de la métropole et qui, devinez-le, passent un mauvais moment.
Et puis évidemment, quelques données d'agenda parce qu'il n'y a pas que ce rassemblement de ce soir qui se passe à Lyon et dans les environs.
Et puis évidemment, comme chaque semaine, on a cherché, on aimerait savoir ce que ça veut dire ACAB. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 39 18 15. En plus, on sera chaud avec l'envoyé spécial direct depuis la manif. Du coup, c'est le jour ou jamais. Appelez-nous au 78 39 18 15. Voilà, voilà.
Bonne mission. Et oui, et la réquisition peut-être en réalité est une réponse à la question du manque de logement. C'est peut-être une question qu'on pourra aborder. En attendant, du coup, comme on le disait précédemment, on a la chance d'être avec une camarade de l'Alpil. Salut.
Salut.
Et on va aborder un certain nombre de sujets ce soir. Mais pour commencer, très simplement, on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes ici ne savent pas ce qu'est l'Alpil. Est-ce que tu peux nous dire ?
Ouais, l'Alpil, c'est une association de salariés. On a une quarantaine. Une association plutôt ancienne qui existe depuis plus de 40 ans, qui est bien implotée sur la métropole de Lyon et puis un peu sur le Rhône. Concrètement, on accompagne des gens qui sont en galère de logement ou d'hébergement et puis on essaye de faire un peu de plaidoyer sur ces questions-là.
D'accord. Et le plaidoyer, ça porte sur quoi spécifiquement actuellement, c'est vous essayez de vous positionner?
Ouais, l'idée, c'est de se positionner dans toutes les instances techniques et politiques de la métropole, de l'État, pour essayer de faire remonter ce que nous, on peut constater sur le terrain en termes de problèmes, quoi.
D'accord. Et donc on a décidé d'aborder trois principaux sujets ce soir, qui en fait sont des modifications soit récentes dans la loi, dans les lois relatives au logement, soit en fait programmées. On verra ce qu'elles deviennent. On sait qu'on est dans une phase un petit peu d'incertitude à ce sujet. Et on voulait commencer par discuter du décret Habitat, donc qui est une phase pas très connue, mais qui en fait a fait rentrer un certain nombre de biens de très mauvaise qualité, tu vas pouvoir nous préciser un petit peu, dans ce qui est louable en réalité.
Ouais, exactement. Donc 2023, c'était une sale année pour le droit au logement. Le décret Habitat, il est passé le 27 juillet 2023 exactement. C'est un petit décret tout discret qui vient redéfinir ce que veut dire un logement décent. Donc il liste tout un tas de normes, de définitions de ce qu'est un logement qui est décent et donc louable. Donc comme ça a l'air plutôt pas mal. En réalité, c'est particulièrement problématique parce que ça introduit tout un tas de dispositions qui permettent de faire rentrer dans la catégorie des logements décents des logements qui jusque-là l'étaient pas. J'en prends un exemple qui est l'exemple peut-être le pire. Jusqu'à présent, pour qu'un logement soit décent, il y avait des critères de surface. Il fallait qu'il y ait au moins une pièce de vie qui fasse au moins 9 mètres carrés en termes de superficie. Bon voilà, c'était ça. Maintenant, la définition, elle a un peu changé. Il faut qu'il y ait une pièce de vie avec une surface au moins égale à 9 mètres carrés ou un volume habitable d'au moins égal à 20 mètres cubes. Ce qui veut dire que, par exemple, une pièce de 5 mètres carrés mais avec une grosse hauteur sous plafond, ça fait 20 mètres cubes, c'est bon, c'est décent. Donc ce genre de petit détail technique comme ça, il fait basculer dans le champ de la légalité en fait tout un tas de logements qui jusque-là n'étaient pas louables. Et nous, on voit vraiment les effets, c'est pas que de la théorie, on voit, on accompagne des personnes qui vivent dans des logements qui, jusqu'à la veille de ce décret, étaient considérés comme non décents, pour lesquels on avait réussi à mobiliser des arrêtés, pour lesquels les locataires allaient être relogés parce qu'on n'a pas le droit de louer ce genre de truc. Et qui, depuis le décret, eh ben c'est terminé, les arrêtés sont tombés, le logement est considéré comme décent, donc ils y restent et ils n'ont pas de perspective de relogement.
Ok, ouais, c'est vraiment très dur. J'ai vraiment un retour pourri, je suis désolé. Ouais. On peut aller plus loin. Il y a d'autres éléments. Il y a des éléments de hauteur. Il y a des éléments de, il me semble, de lumière aussi
oui.
Dans les logements. Mais c'est vraiment cette stratégie qui est de dire on va résoudre la crise du logement
en réinjectant sur le marché tout un tas de taudis.
Là, ils ont fait des annonces. Je ne sais pas si elles ont été traduites d'une manière ou d'une autre. Qui portait aussi sur la question des passoires énergétiques. C'était une grande annonce de Casbarian, le ministre du Logement, qui disait quelque chose comme on va résoudre le problème des passoires énergétiques, ce qui consistait en fait à casser le thermomètre, hein, une règle habituelle. Et est-ce que ça, ce changement-là, est-ce que vous avez, ce que tu dis, on accompagne des personnes, tu as une idée de l'ampleur que ça prend? C'est un phénomène vraiment palpable, vous avez plein de gens qui viennent vous voir.
Non, je pourrais pas le quantifier. J'ai des cas précis, j'ai des exemples concrets. Après, en termes de statistiques, je pourrais pas donner.
D'accord. Il n'y a pas de souci. Toujours en même temps, j'imagine qu'on n'en a pas, en fait, parce que c'est tout récent. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler la date.
Et c'était le 29 juillet 2023.
Donc voilà, t'as à peine un an, en fait, il n'y a pas de recul sur ce que ça produit. En même temps que ce décret Habitat, il y a une loi qui, elle, on peut le dire, eu plus de retentissement, en tout cas médiatique, qui est la loi Casbarian-Berger, hein, du nom de celui qui était à l'époque, en fait, juste un parlementaire, qui est depuis devenu ministre du Logement, et d'Aurore Berger, qui doit être, je sais pas, quelque chose parlementaire, et puis à un moment, porte-parole du gouvernement, quelque chose comme ça. La loi Casbarian-Berger, dont on a pas mal parlé, comme une loi anti-squat, mais qui n'est pas que ça, en fait. Est-ce que tu peux nous redire, en fait, c'est quoi le contenu de cette loi? Pourquoi on l'a appelée loi anti-squat? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, dans cette loi de particulièrement problématique?
Ouais, elle est bien mal nommée, loi anti-squat. Ça, c'est surtout à la fois la manière dont les médias, et notamment les médias de droite, ont traité la question préalablement à l'étude de la loi, et la manière dont Casbarian lui-même a présenté son texte à l'Assemblée, avec l'image d'Épinal du petit couple de retraités qui part en vacances et puis qui rentre ensuite chez lui, et malheur, sa maison est squattée. Il faut savoir que ça, c'est des situations qui existent. Il y en a peut-être une sur un million. En tout cas, la réalité... Alors, d'une part, des squats, c'est pas ça. La très, très grande, énorme, écrasante majorité des squats, ce sont des locaux qui sont inhabités. Et on peut comprendre très concrètement pourquoi. Et la très grande réalité... la très grande majorité des propriétaires qui sont des propriétaires bailleurs, ce sont des multipropriétaires. Donc loi anti-squat, c'est pas vraiment ça. Alors oui, effectivement, c'est une loi anti-squat, c'est aussi une loi anti-locataire. Sur le volet du squat, où moi je vais plutôt parler d'occupants sans droit ni titre, le code pénal, il était déjà très ferme par rapport à la question du squat. C'était 3 ans de prison, 50 000 euros d'amende pour des personnes qui squattaient des domiciles. Le truc avec la loi Kasbarian, c'est qu'il va élargir la notion de domicile. Devient domicile non seulement des locaux à usage d'habitation, donc ça normal, mais aussi des locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Donc c'est-à-dire qu'à peu près n'importe quel bâtiment tombe sous la définition du domicile et donc peut être réprimé avec cette loi anti-squat. Du coup, ça rajoute un article dans le code pénal. Si on squatte ce genre de logement, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, et c'est doublé si vous récidivez dans les 5 ans. Donc, cet élargissement de la notion de domicile, elle va avoir des répercussions sur plein de trucs. Peut-être je reviendrai dans les détails après. Sur le volet squat, encore une fois, la loi Kasbarian, elle vient créer un nouveau délit. Alors ça, c'est super. C'est passible de 3 750 euros d'amende si vous faites de la propagande ou de la publicité en faveur de méthodes incitant ou facilitant le squat. Concrètement, ça veut dire que les auteurs de la brochure Le Squat de A à Z pourraient être amenés à devoir payer cette amende. Mais on se demande aussi si des réseaux militants ou des associations de professionnels comme nous, on ne serait pas aussi passible de cette amende en faisant simplement ce qui est notre boulot, c'est-à-dire d'informer les occupants de leurs droits. Donc effectivement, c'est une loi anti-squat, mais ce dont on a beaucoup moins parlé, en tout cas ce dont les médias ont beaucoup moins parlé, c'est que c'est aussi une loi anti-locataire. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas parlé suffisamment. En France, 4 personnes sur 10 est locataire. Donc ça concerne énormément de monde. Alors, cette loi, elle rajoute encore un nouveau délit. Alors cette fois, c'est le délit passible de 7 500 euros d'amende. Si vous êtes locataire, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, votre bail est résilié, une procédure d'expulsion s'enclenche. Si vous vous maintenez dans votre logement parce que, par exemple, vous n'avez nulle part où aller, vous êtes redevable d'une amende de 7 500 euros. Et en plus, c'est une amende pénale, donc elle ne peut pas être effacée par un dossier de surendettement. Donc ça va suivre les gens jusqu'à la fin de leur jour. C'est le chercheur Camille François, il parle de frapper des gens à terre, et moi je trouve que c'est vraiment exactement ça. Déjà de base, quand on est dans une procédure d'expulsion pour impayé, c'est qu'on est en difficulté financière, et on vient en rajouter une petite couche. Ce qui est particulièrement angoissant aussi avec la loi Kasbarian, c'est qu'elle vient retirer des pouvoirs au juge. Les rapports locatifs, ils sont régis par la loi de 89, qui est basée, c'est un peu simpliste, mais qui est quand même basée sur le principe qu'il y a une inégalité de pouvoir entre locataire et propriétaire, et que le droit doit venir corriger un certain nombre de ces inégalités. Elle est basée aussi sur le principe qu'un propriétaire, il ne peut pas expulser n'importe comment son locataire. Il faut qu'il respecte une procédure qui est très encadrée, qui est très précise, avec des délais, etc. Et elle est basée sur l'idée que le juge doit exercer un contrôle sur cette procédure d'expulsion. La loi Kasbarian, elle vient retirer les pouvoirs du juge. Notamment, elle retire au juge le pouvoir de suspendre d'office l'expulsion. C'est le locataire qui doit être présent à l'audience et qui doit en faire la demande, sinon le juge il n'a pas, pas le droit de le faire à sa place. Le juge il a aussi le droit de ne pas prononcer la résiliation du bail, donc de ne pas prononcer l'expulsion, et de proposer des délais de paiement pour la dette. Avant, il pouvait échelonner la dette jusqu'à 3 ans. Avec Kasbarian, ça devient 1 an. Donc c'est beaucoup plus court pour résorber la dette.
Il faut en faire la demande en plus.
Alors bien sûr.
Le juge pouvait le proposer, je crois, c'est ça.
Effectivement, de la même manière que... Ouais. Pareil, tout un tas de petits obstacles qui sont rajoutés dans le parcours du combattant du locataire. Il doit avoir intégralement repris le paiement du loyer au moment de l'audience. Sinon, c'est totalement impossible d'obtenir des délais. Même si le juge le voulait, il ne peut plus octroyer de délais si le loyer n'a pas été repris dans son intégralité. Donc, retire des pouvoirs au juge, accélère aussi les délais de procédure. Ça, c'est assez catastrophique. Par exemple, on a maintenant 1 mois de moins pour résorber sa dette avant de passer en audience. Ou alors, les délais ont été divisés par 3 après le commandement de quitter les lieux. Donc une fois que le bail est résilié et qu'on demande à la personne de partir, on a 3 fois moins de temps maintenant pour trouver une solution de repli. Cette accélération des délais de procédure, elle est problématique à plusieurs endroits. Déjà parce qu'elle va engorger encore plus la justice, qui est déjà bien sous l'eau. Donc les juges, ils vont encore avoir moins le temps d'examiner les dossiers, sachant qu'ils ont déjà carrément pas le temps de le faire. mais c'est surtout pour les personnes. La procédure d'expulsion, c'est long, c'est compliqué, il y a plein de dispositifs qu'on peut activer, il y a plein de droits quand même pour protéger, mais encore faut-il les connaître et puis encore faut-il les activer, et ça c'est pas une mince affaire. Du coup, ben, ça réduit tout simplement les délais pour que les personnes puissent se défendre. Et nous, en tant qu'association qui accompagnons ces gens, ça nous complique aussi le boulot parce que ça réduit les délais dans lesquels on peut travailler avec les personnes pour mobiliser tout ça.
Et puis on voit comment ça marche avec le reste, ça veut dire que le juge a moins de droits, ça doit être sollicité par les personnes qui ont moins de temps pour se renseigner sur leurs droits, qui a priori sont en dèche de thunes de ouf. Du coup, si elles connaissent pas l'association, le temps de savoir où est-ce qu'on peut se renseigner gratuitement sans raquer pour un avocat. Du coup, je trouve les deux, ça marche hyper ensemble, de dire t'as moins de droits, les juges ont moins le pouvoir de décider quoi que ce soit, et t'as surtout pas du tout le temps finalement d'être informé de tes droits et de te retourner, et que ça fait vraiment une machine à broyer.
C'est une machine.
Ouais. Et si on ajoutait à ça aussi qu'en fait, si tu te retrouves dans ces procédures, souvent t'as suspendu les APL. Donc t'es en galère de... Enfin, c'est des espèces de trucs de galère de thunes qui, parfois, en fait, sur des sommes, je vais pas dire dérisoires, parce que pour les personnes, ça peut être importante, mais tu démarres avec, en fait, un impayé de loyer de quelques centaines d'euros. En fait, ça prend vite des proportions qui te mettent dans une merde noire, quoi.
On t'a suspendu les APL, mais tu dois reprendre l'intégralité de loyer courant, sinon ton bail est automatiquement résilié. On voit comment la machine, elle peut très vite s'emballer pour des dettes qui, parfois, sont dérisoires, quoi. Voilà. Alors il y a un dernier sujet par rapport à la loi Kasbarian. Alors c'est pas un truc qui a été introduit par Kasbarian, c'est une procédure d'évacuation forcée qui a été introduite par la loi Dalo en 2007, mais qui est élargie par la loi Kasbarian, avec l'élargissement de la notion de domicile. Alors avant, cette procédure d'évacuation forcée qui passait pas par le juge, elle était utilisée que pour les squats. On a récemment entendu parler d'un bailleur social sur la métropole de Lyon qui l'a utilisé pour expulser des occupants sans droit ni titre. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que Kasbarian, il élargit, il rend plus facile cette procédure d'évacuation forcée. Et nous, on a des cas de locataires qui se sont fait virer comme ça, sans aucun recours à la justice. Ils arrivent, ils rentrent de vacances, il y a un avis qui est placardé sur leur porte, c'est expulsion. Et donc, ça rejoint un peu la question de l'accélération des délais de procédure et puis de court-circuitation de la justice, quoi. Voilà.
Et ça, je crois qu'en plus, on peut le chiffrer. Il me semble avoir vu passer un chiffre il y a un ou deux jours qui était de genre augmentation de 20% du nombre d'expulsions suite, en fait, depuis l'application de la loi, ce qui est déjà énorme en réalité. Enfin, ça flambe, quoi. J'imagine que concrètement, vous le voyez arriver des cas nouveaux, quoi.
On voit l'augmentation de la procédure d'expulsion depuis la fin du Covid. On la voit monter. C'est une tendance qui est à la hausse et qui n'a pas commencé avec Kasbarian. Mais là, on voit de nouvelles formes d'expulsion, notamment avec cet article 38 de la loi Dalo, qui n'existait pas avant.
D'accord. Et justement, le DALO, il est censé, c'est censé être une procédure, donc c'est le droit au logement opposable. C'est censé être quelque chose de protecteur. Est-ce que ça fonctionne encore?
De moins en moins. Sur le Rhône, on avait quand même on avait quand même de la chance parce que donc la loi Dalo 2007, droit au logement opposable, c'est une loi qui permet au préfet de reconnaître des personnes qui sont dans des situations bien particulières prioritaires pour l'accès à un logement social. Donc c'est le préfet qui reconnaît prioritaire des gens et en même temps c'est le préfet qui autorise le concours de la force publique, donc qui autorise les expulsions. Il y avait une petite dissonance à cet endroit-là. Du coup il y a une circulaire qui jusqu'à il y a quelques années s'appliquait encore plutôt bien dans le Rhône, qui disait au commissariat, vous n'expulsez pas quand les personnes sont reconnues prioritaires d'allo. On attend qu'on leur fasse une proposition de logement avant de mettre la machine en branle. Cette circulaire, elle était plutôt bien respectée. Là, je dirais que depuis un an et demi, deux ans, on voit qu'elle n'est plus du tout une garantie contre les expulsions. Et puis, encore une fois, il y a deux vitesses. Il y a le droit au logement opposable, puis il y a le droit à l'hébergement opposable. Alors là, si vous êtes reconnu prioritaire à l'hébergement opposable, là, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas protégé par la circulaire.
Super. Donc, on comprend que, globalement, l'offensive contre les pauvres, elle continue de fou. En tout cas, la loi Kasbarian, ça s'inscrivait là-dedans avec tout un tas d'autres lois qui portaient sur d'autres dimensions que le logement. Mais apparemment, ils n'entendent pas s'arrêter là, puisque loi Kasbarian 1, Kasbarian Berger, apparemment, il y a une... Enfin, pas apparemment, il y a une loi Kasbarian 2 qui était dans les tuyaux jusqu'à tout récemment. Là, on est plutôt sur quelque chose qui s'attaque, en fait, à la loi RSRU. Tu vas pouvoir nous rappeler ce que ça veut dire. Et en fait, à la question du logement social, un peu brutalement. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, cette loi qui est dans les tuyaux? Alors, on ne sait pas trop... ce qu'elle va devenir en fonction de ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent, mais on peut quand même imaginer que c'est le genre de démarche qui risque à un moment de revenir sur la table, quoi qu'il arrive.
Effectivement, ça continue. Alors, l'une des clés de ce nouveau projet de loi logement, c'est le logement locatif intermédiaire. Alors, il faut savoir que pour avoir un logement social, il faut avoir un certain... il faut pas dépasser certains plafonds de ressources. Puis, il y a différents types de logements sociaux en fonction des plafonds de ressources que vous avez. Il y en a un qui s'appelle le LLI, le logement locatif intermédiaire, qui n'est pas considéré comme du logement social, d'ailleurs, jusqu'à présent. C'est un logement qui est destiné à des personnes qui sont plutôt bien riches, puisque c'est pour y accéder, il faut un revenu d'au moins 3 600 € pour une personne seule. On estime que ça concerne 3% des personnes éligibles au parc social, donc autant dire quand même une très grosse minorité. Donc, logement locatif intermédiaire, pourquoi ? Il faut en revenir à la loi SRU, donc la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose des quotas aux communes. Elle impose aux communes de produire un certain nombre de logements sociaux. Depuis 2013, c'est 25%. 25% de leur parc doit être du logement social. L'idée géniale de Casbarian, c'est de dire, ok, 25%, dans ces 25%, on va compter les logements locatifs intermédiaires, qui jusqu'à présent n'étaient pas considérés comme des logements sociaux, et qui pourraient, avec cette nouvelle loi, le devenir. Donc concrètement, ça veut juste dire qu'on va faire rentrer des biens inabordables dans la définition du logement social, dans ces quotas-là de 25%, et donc on va produire encore moins de logements sociaux vraiment abordables. Donc ça, c'est quand même une grosse, grosse crainte de l'ensemble des acteurs sur le milieu du logement. Il y a quand même une levier de bouclier collectif sur ce détricotage de la loi SRU. Il y a plein d'autres trucs dans ce projet de loi logement. Il y a des dispositifs qui permettent aux bailleurs sociaux de vendre plus facilement leur logement. C'est vrai qu'ils en ont quand même trop. Et puis il y a un autre truc qui est assez inquiétant. C'est notamment l'élargissement des pouvoirs du maire. Alors l'idée de cette loi, c'est de dire que les maires vont avoir plus de pouvoir dans l'attribution des logements sociaux neufs de leur commune. Aujourd'hui, un logement social, il est attribué par une commission qui s'appelle une caléole. Il y a tout un tas de gens, tout un tas d'institutions qui sont représentées dedans. Cette loi, elle veut donner plus de pouvoir aux maires pour pouvoir décider qui va occuper tel logement dans telle rue de ma commune. Et ça, c'est assez inquiétant parce que tous les universitaires qui ont bossé sur le sujet le montrent. Quand on laisse un pouvoir discrétionnaire au maire, on ouvre la porte à des idées politiques discriminatoires. On va sélectionner des catégories de population qui sont soi-disant plus désirables pour le quartier que d'autres. Donc on sait ouvrir la porte clairement à une politique de peuplement raciste que de laisser les pleins pouvoirs au maire là-dessus. La petite cerise sur le gâteau du projet loi logement, le surloyer. Alors ça, pour être dans un logement social, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. Mais ça arrive que parfois on dépasse un peu. Jusqu'à présent, quand on dépassait de plus de 20%, quand nos ressources dépassent de plus de 20% le plafond du logement social qu'on occupe, le bailleur avait le droit d'appliquer un surloyer, donc d'augmenter le loyer, quoi, concrètement. Le projet de la loi Logement 2, c'est que dès que votre revenu dépasse de 1 euro le plafond du logement que vous occupez, le surloyer arrive. Donc là, on va aller chercher à faire des économies sur le dos de locataires de logements sociaux, en général travailleurs pauvres, intérimaires, personnes avec des revenus qui fluctuent. Donc c'est à cet endroit-là qu'ils cherchent à faire les économies pour résoudre la crise du logement.
Oui, parce que tu le disais, je te donne le micro tout de suite, mais tu le disais pour constituer, c'est-à-dire que là on a parlé du LLI, qui d'ailleurs est assez intéressant, parce qu'il illustre quand même le fait que en fait, la majorité des gens galèrent à se loger, c'est-à-dire les prix des loyers et les prix à l'achat aussi, mais ici on s'intéresse quand même plutôt aux locataires, sont très élevés, donc c'est aussi ce truc-là d'avoir un truc, le logement intermédiaire, il raconte aussi cette réalité-là, mais si on prend le PLAI, donc qui est le logement le plus social, lui on est, il me semble, dans le Rhône, le plafond c'est à peu près 12 000 euros par an, donc ça veut dire pour quelqu'un nettement moins d'un SMIC, quoi, c'est 1 000 euros par mois net, donc voilà, c'est comme, oui, dès que tu gagnes du coup 12 003 €, tu rentrerais dans cette...
Ouais.
Et puis sur le choix des maires, je trouve que ça vient vachement répondre à toutes ces communes qui assumaient comme ça publiquement de ne pas respecter la loi, ou qui disaient de toute façon on n'en a rien à taper, on veut pas de logement social, du coup on préfère, et avec, enfin, il y a les communes, il y a les maires, il y a évidemment tous les gens qui votent pour ces politiques là et qui étaient bien d'accord de payer plus cher d'impôts pour ne pas avoir de pauvres chez eux, et du coup de remettre au maire, ça fait ce double truc de... Effectivement, il y a des logements qui sont plus du tout sociaux qui vont être comptés dedans. Et par ailleurs, le maire qui va pouvoir justifier de plus de logements sociaux parce qu'il aura beaucoup plus la main pour choisir finalement quels seront les bons pauvres et les mauvais pauvres qu'il aura. Et qui va du coup limiter aussi probablement, en tout cas moi je l'imagine, cette mise d'amende, puisque les maires s'ils peuvent plus choisir, ils auront plus de facilité à faire des logements sociaux où ils choisiront finalement les gens qu'il y a dedans. Et ce qui n'est plus du tout l'esprit dans lequel avait été instaurée cette loi qui disait juste en fait il faut un peu de logement social partout pour tout le monde et qu'il y a pas, pour limiter à minima, avec beaucoup d'inefficacité par ailleurs, mais la ségrégation résidentielle de ce lieu-là.
Bah, apparemment on est d'accord avec toi dans ce studio. Donc, tout le monde est contre la ségrégation. Bon. Écoutez, c'est assez normal. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Peut-être, est-ce qu'il y a des choses un peu enthousiasmantes quand même aussi dans la tentative de résistance, peut-être à la loi Casbarian 2, peut-être à d'autres éléments, des moments où on dit, tiens, on n'est pas tout seul.
Ah, elle est dure, cette question. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une mobilisation plus forte sur le projet de loi Logement 2. Casbarian, ouais, on a... Je pense qu'on n'a pas réussi. Il y a quelque chose qu'on a loupé avec l'opinion publique. Mais c'est partie remise pour le prochain projet de loi.
Ouais, il y a vraiment de quoi se mobiliser. Et aussi, il y a la question des mobilisations, des luttes qu'il pourrait y avoir. Il y a les questions des besoins que des personnes peuvent avoir. Les personnes en galère de logement, il y en a plein. Les personnes en galère de logement, elles peuvent s'appuyer sur la LPIL. Comment est-ce qu'on vous trouve? Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir? Et comment toi et toute la LPIL, on vous trouve à Lyon? Ouais. Et aux alentours.
On dit que toute personne qui a un problème par rapport au logement ou à l'hébergement peut venir nous voir. Il n'y a pas de critères de... Il n'y a pas vraiment de critères de résidence. Il faut avoir plus de 30 ans. Mais bon, si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez quand même appeler, puis on vous redirigera vers une autre asso. Et il y a tous nos coordonnées sur notre site internet, habiter.org, et il y a des permanences rue de Créqui, au 280 rue de Créqui, où on peut venir sans rendez-vous pour exposer sa situation, et puis voilà.
Ouais, n'hésitez surtout pas, parce que comme un peu t'as pu le dire au début, enfin c'est difficile de se retrouver face à ces trucs-là. Il y a des questions de ces temporalités qui en plus ont été hyper raccourcies par la loi Casbarian. Il y a en fait mine de rien le fait de connaître le droit, et contrairement à ce qu'on prétend quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est pas possible de la connaître. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la LPIL. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Et tout de suite après, on vous propose un entretien avec les contractuels qui entretiennent les collèges de la métropole.
Et en effet, parce que lundi, plusieurs centaines de contractuels de la métropole de Lyon ont appris que leur contrat ne serait pas renouvelé. Alors pour certaines, la fin de contrat n'est même pas honorée, et une grande partie d'entre elles s'occupe de l'entretien dans des collèges et d'autres structures qui dépendent du financement de la métropole lyonnaise. La très grande majorité de ces contractuels sont des femmes à temps partiel, et un camarade à nous est allé enregistrer le personnel qui s'occupe de l'entretien d'un collège lyonnais où un poste a été supprimé cette semaine.
Bonjour, on est dans le collège. On est mobilisé un petit peu par rapport à une collègue qui a travaillé ici pendant 4 ans.
Toucher les panneaux, il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire. Voilà qui vient.
On a une personne qui a travaillé pendant 4 ans, elle a ce contrat renouvelé chaque année. Et cette année, d'un coup, elle était surprise par Métropole qui a arrêté son contrat, qu'elle n'était pas vraiment avertie non plus. Un lundi matin, qu'ils arrivent comme ça d'un coup de le dire à la personne que votre contrat, il a arrêté, il est gelé. C'est un contrat qui était gelé, voilà. Et nous, les agents, comme on est tous ici là, pour solidaires, pour soutenir notre collègue, eh ben, on est là pour lui dire qu'on va se battre pour son poste. On aimerait bien qu'elle revienne travailler avec nous. On n'est pas là que pour notre collègue, on est là pour tout le monde, pour tous les gens qui ont perdu leur travail. Parce que sans leur travail, ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas venir besoin à leur famille.
Donc la métropole de Lyon vient d'annoncer la suppression de plusieurs centaines de postes de contractuels qui ne sont pas renouvelés. Ici au collège, c'était quoi le travail que tu faisais? Peut-être que vu que tu es à côté, je te tends le micro. Tu faisais quoi comme travail et tu as appris cette nouvelle quand? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça?
Oui, mon boulot ici c'est un agent d'entretien polyvalent. Je travaille ici depuis 4 ans. J'étais, disponible, tout ça. J'ai fait un grand lien avec mes collègues de travail, avec les profs, avec tout ça. Et d'un coup, j'ai pas, de nouvelles avant. Le lundi matin, d'un coup, j'ai reçu là comme quoi vous arrêtez deux jours d'après. Lundi, mardi, hier, c'était mercredi, c'était la fin de mon contrat. Normalement, mon contrat, c'était jusqu'à le 13 juillet. Ils sont arrêtés d'un coup, tout ça. J'ai aucune nouvelle, aucun truc. Juste qu'ils vont payer mes congés à l'avance. Je m'arrête hier, j'ai arrêté hier. Et mes congés, ils sont payés à l'avance, c'est tout.
Donc ils t'ont jeté comme ça au chômage sans rien?
C'est ça qui est le truc que j'ai pas aimé du tout. Ils ont vraiment touché le truc humain, là. Ils m'ont jeté comme ils ont jeté une chiffon. Non, c'est pas comme ça. Normalement, ils vont dire un mois à l'avance ou ils vont me laisser jusqu'à la fin de mon contrat parce que je sais que je travaille, c'est pas un CDI, c'est un CDD. Je sais pas si mon contrat va finir, ils vont pas renouveler mon contrat, mais c'est pas de cette façon-là.
J'ai pas surprise.
Je suis surprise.
Tout le monde a été surpris. C'est vrai que ça nous a attristé quand même parce que c'est vrai que Salia est très 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 familière et
très gentille,
on s'entend très très bien. Ouais.
Ouais. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de projets. Ouais. Elle s'est lancée dans les projets. Elle a une famille à faire nourrir quand même. Elle a son mari qui est malade à ce moment-là. Il a perdu aussi son boulot. Elle se trouve aussi qu'elle a perdu son boulot. Alors on se demande comment elle va faire la pauvre.
Ce que moi je vais dire, c'est la nouvelle m'a fait vraiment très très mal au cœur. Les jours où je suis arrivée, je commençais le travail à 10h et j'ai trouvé mes collègues, ils m'ont annoncé la nouvelle. Donc je croyais que c'était pas vrai. Ça m'a vraiment fait très 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 mal au cœur, mais très mal au cœur. Parce que ici, nous sommes comme en famille en fait. Voir Salia partir comme ça, sans pour autant attendre que son contrat puisse se terminer. Et après, je me suis posé la question, parce que ici, on a 11 classes. Chacune a 11 salles de classe à nettoyer. Et dans une salle de classe, on a 32 élèves. 32 élèves, donc, c'est-à-dire on a 32 tables et 32 chaises. Et imaginez-vous, dans une salle, on va faire combien de minutes, en fait? Et le temps de faire toutes les 11 classes. Et qui c'est qui va faire les secteurs de notre collègue? Qui c'est qui va les faire? Déjà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour finir nos secteurs à nous. Donc, je ne sais même pas comment on va s'en sortir. Donc, on ne peut jamais s'en sortir. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'avec nos salles de classe à nous, on n'arrive pas. Et comment on va faire pour ajouter les travail des autres? Donc, c'est pas juste, en fait. Donc, je dirais que si ils peuvent au moins revoir cette décision, nous, ça va nous faire du bien, en fait.
Est-ce que vous êtes mis en relation avec d'autres personnes qui sont dans le même cas? Parce que je crois qu'il y a plusieurs centaines de personnes. Est-ce que vous avez un peu les chiffres, d'ailleurs, du nombre de personnes qui ont été licenciées?
Non, j'ai pas les chiffres, exactement.
Et est-ce que vous êtes en relation avec d'autres...
On est en relation avec des autres personnes aussi, qui ont perdu, pareil, leur poste, comme notre collègue. Dans les autres collèges, qu'ils étaient surpris aussi, qu'ils n'étaient pas avertis avant. Voilà.
Y en a qui ont reçu des lettres recommandées.
Des lettres recommandées.
Mais comme Célia, elle ne l'a pas encore reçue encore.
Pour l'instant, elle ne l'a pas reçue, mais on avait quelqu'un de métropole, quand même, qui était gentil, qui s'est déplacé. Il est venu voir Célia, il est venu discuter avec elle, de le prendre à l'écart, de l'expliquer. Peut-être, avec le temps, on aura un espoir de la récupérer. Voilà. Il s'est déplacé vraiment deux fois. Même au jour d'aujourd'hui, il est là et il a bien parlé aussi avec Célia.
Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au collège? C'est quoi la suite pour Salia?
Ben, la suite d'aujourd'hui, on va se mettre tous ensemble, d'y aller devant le collège, de crier fort, qu'en quoi on a besoin de ces personnes-là, on a besoin qu'ils travaillent, qu'ils ont un salaire comme tout le monde. Et nous aussi, je vous dis la vérité, on est tous fatigués, on est tous malades. Tous mes collègues, ils ont tous des dossiers maladies et tout. On est vraiment osés par la cuisine qu'on a fait avant. On a besoin de soutien de ces personnes-là qui nous aident dans notre travail. Parce qu'on ne fait pas un travail facile, c'est un travail vraiment dur quand même.
Il y a pas mal de professeurs qui sont en grève ici. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres collèges qui sont un peu bloqués comme ici?
Bah, je pense qu'il y a deux collèges. Il y a un autre collège aussi qui sont au fond le même mouvement que nous. Et je pense qu'aussi, il y a aussi qu'on va faire une grève le 24 devant la métropole. On a des profs aussi qu'on remercie vraiment beaucoup parce qu'ils sont là avec nous. Ils nous soutiennent vraiment beaucoup. Et ben ils sont là, ils vont venir avec nous, sortir à l'extérieur, de crier fort, de dire qu'on est tous solides entre nous, soit avec les profs et les agents, on est tous la main dans la main.
C'est une solidarité incroyable. Parce que, en fait, j'ai jamais vu que les collègues, elles appuient autant une personne qui est appréciée ici. Moi, je l'ai vécu, une fin de contrat comme ça. Et c'est vrai que c'est dur. Quand on n'a pas d'appui au niveau de ses collègues, au niveau de l'administration, au niveau des professeurs, je trouve que c'est un élan formidable. Et ça ne devrait plus arriver en 2024. Faire des postes, des petits postes, comme elles ont dit mes collègues, et elles l'ont très bien mentionné, supprimer comme ça la première marche d'escalier, on est dans une situation de précarité. On fait un travail qui est très physique, très difficile en fait. Moi j'aime, hein, j'aime mon travail, mais de traiter la personne comme un chiffon, en fait, c'est rabaisser encore plus la personne. Nous, on est agent d'entretien polyvalent. Ça veut dire qu'on touche aussi bien le ménage que la cuisine, que la plonge, que on fait tout, en fait. Imaginez-vous si dans une structure scolaire, que ce soit collège, lycée, université, ou dans toutes les administrations, il y a des agents d'entretien. Imaginez-vous si on les supprime, si on supprime ces postes. Rappelez-vous quand il y avait la grève des éboueurs sur Marseille, sur beaucoup de villes. Nous, agents d'entretien, on est le premier maillon social pour maintenir des lieux propres où l'administration elle peut venir.
Le 24 juin, c'est un grand mouvement pour tout le monde, pour tous les collèges, pour
les MDR, les assistantes sociales, la maison de Rhône, tout ce qui est social. Voilà, ils sont vraiment touchés aussi. Hein. On pense à eux aussi, pareil. Voilà, d'être ce qui vraiment ils écoutent tout ça à la radio, et ben faut être tous solidaires entre nous et la main dans la main pour le 24. Il faut qu'on fasse vraiment un grand mouvement. Hein. Faut être vraiment beaucoup. Hein. Voilà, il faut qu'ils nous répondent aussi parce qu'on a vraiment besoin de ces personnes-là pour le travail. On sort les agents pour gagner de l'argent, mais après les agents-là, ils sont obligés d'y aller quand même, de demander à l'assistance sociale de les aider quand même. Hein. Ils ne peuvent pas rester sans salaire, ils ne peuvent pas rester sans payer leur loyer, ils ne peuvent pas rester sans ramener à manger à leurs enfants. Il y aura toujours une aide quelque part, autant de les laisser travailler, trouver de l'argent ailleurs. Qu'on refasse des routes à chaque fois, on casse des routes, on plante des arbres, on fait plein de choses. Mmh. On achète des arbres, on casse les routes, on les répare, après on les casse. Pourquoi? On a besoin des personnes qui travaillent aussi. Hein. Faut payer leur salaire, faut pas les mettre dans les routes. On n'a pas besoin.
Chose aussi, ils vont décider comme quoi ils poussent les gens pour travailler. Quand les gens qui touchent la RSA et tout ça, maintenant ils ont mis une loi pour pousser les gens pour qu'ils travaillent. En même temps, ils arrêtent les gens qui ont. J'ai mal pour trouver ce travail-là. J'ai sorti vraiment pour trouver ce boulot-là. J'ai fait 2 ans de recherche, tout ça. Et après, d'un coup, ils vont pousser pour retourner à la RSA.
Et mes collègues, ils ont sorti aujourd'hui. Et parce qu'elle est venue pour travailler, parce que ma copine, je vous parle d'elle, mais j'ai mal pour elle. Parce qu'elle était malade. C'était son médecin qui l'a décidé qu'elle va aller travailler. elle a trouvé ce travail-là, c'est pour un soulagement, c'est pour oublier un petit peu sa maladie. Ouais, ça, hein. Jour de jour, on la trouve qu'on les met à la porte. Je trouve que c'est pas juste. Voilà.
Moi, ouais. J'ai fait des projets, j'ai fait, je commençais à faire misère à moi. Ouais. Parce que je suis mariée, je suis j'étais femme de foyer avec 6 enfants. Et d'un coup, mes enfants, les grands, ils sont partis, ils sont faire leur vie, tout ça. J'ai 3 à la maison en charge. Et d'un coup, j'ai rattrapé toutes les maladies, tout ça, le stress de la maison. J'ai dit, mon médecin, il m'a poussé pour sortir, il faut sortir, travailler, trouver un truc pour oublier tout ça. Je commençais à gagner mon argent à moi, j'ai fait mes ailes à moi, plaisir à moi, mes enfants et tout ça. D'un coup, tous mes projets que j'ai fait pour l'année sont tombés à l'eau. C'est ça le truc pas humain du tout. Ils m'ont jeté comme ils ont jeté un... Pourtant, j'ai fait, un grand progrès ici. Donc là, j'ai rattrapé des secteurs, ils étaient dégueulasses et tout ça. J'ai donné mon cœur au travail.
T'investis beaucoup.
Oui, beaucoup. Je pense que les gens qui ont décidé ça, ils ne sont pas sur le terrain pour voir les gens,
comment ils travaillent, comment ils
gagnent leur vie. Mmh. Ils ont décidé comme quoi il faut trouver de l'argent de la bouche des gens.
Avant de supprimer les postes, il faut que les grandes personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il faut qu'ils viennent sur place pour voir les agents. Ils travaillent, ils souffrent pour gagner leur paye. On n'est pas là aujourd'hui, on travaille et demain, ils nous disent à la porte. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. Les solutions, il faut les chercher, il faut les trouver ailleurs. Pas mettre les gens à la porte. Les gens qui ont des enfants font comment? Les gens qui sont séparés, ils sont plus avec les couples, ils font comment en fait? Ce qu'on pense à ces personnes-là ou non? Parce qu'on est des cadres, on est intouchables. Non, il faut penser à les petits citoyens aussi.
Moi, je pense que l'économie de chaque pays, il faut qu'il avance, mais il ne touche pas les gens,
les petits citoyens.
Si vous commencez à vous toucher les petits citoyens, ça veut dire que c'est la fin de... C'est pas normal, ça.
Il n'y a pas de solution pour autre chose.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses, nous.
Je vais monter mon micro, comme ça on m'entend.
Moi, je ne vous entends pas, mais en tout cas,
parfaitement,
je suis place des Terreaux au rassemblement appelé par les syndicats et plein d'organisations, et il y a beaucoup de monde. Je pense qu'on est à peu près 3000 personnes, il y a plein de slogans. Il a même refait beau parce qu'il y a eu un petit rayon de soleil, donc la pluie c'est la propagande de l'extrême droite, vous pouvez venir au rassemblement.
Et alors,
la place est presque remplie.
Et c'est comment l'ambiance? Les gens sont chauds?
Ça dit quoi?
Ah, il faut que je parle hyper fort, alors désolé. C'est comment l'ambiance? Les gens sont chauds? Ça chante?
Ouais,
il y a une petite fanfare?
Les gens sont chauds, ça crie des slogans par moment, il y a la batucada et il y a la fanfare, mais j'ai pas encore entendu la fanfare, j'entends que la batucada. Mais je vois pas l'ensemble de la place parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde.
Ah ouais, c'est la grosse manif. Il y a plus de monde, par exemple, que sur celle des débuts de semaine, on a l'impression?
Non, quand même, je pense qu'il y a... J'arrive pas à dire parce qu'on est massé sur une place, mais je dirais qu'il y a peut-être à peu près pareil, à peu près 3000 personnes, je pense.
Du coup, là, pour les gens qui voudraient revenir, c'est toujours place des Terreaux, la manif, c'est pas mis en mouvement et...
Non, c'est place des Terreaux, c'est censé être un rassemblement statique de toute façon. Après, peut-être que ça va partir en sauvage, ça, on peut jamais savoir, mais pour l'instant, on est toujours place des Terreaux.
Eh ben, c'est super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres détails?
Il y a beaucoup plus de familles et tout ça que pendant les manifs de la semaine, quoi. C'est déclaré. Voilà, n'hésitez pas à venir.
Et oui, on entend tout le test de la police.
Barbella, pardon. Mais peut-être aussi la police.
Mais tout est permis. Et ben, c'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup de faire l'envoyé spécial. Et si jamais il se passe un truc super, n'hésite pas à nous le dire.
Ouais, bah, si ça part en manif avant 20h, je vous enverrai un message.
Ah ouais, ça serait super. Et ben, merci beaucoup. Bonne manif en tout cas.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda.
Et oui, c'est l'heure de l'agenda. Alors, du 11 au 20... Non, à partir du 11 juin, merde, je sais plus jusqu'à quand ça dure. En tout cas, il se passe plein de trucs. Il y a l'ECG Plage contre l'expulsion, parce que si je dis pas une bêtise, l'annexe était
ça
officiellement...
Ça dure jusqu'à l'expulsion potentielle.
Ok, du coup, à partir du 11 juin, l'annexe était expulsable, et du coup, il y a plein d'événements. De partout, on va pouvoir faire la liste de tout, mais comme vous avez Internet, Rébellion et compagnie, on est bien sûr que vous allez y arriver. Vous l'avez certainement, vous l'avez entendu finalement, je dis certainement, mais il y a un rassemblement en cours, Place des Terreaux, contre l'extrême droite, qui se déroule et apparemment qui est plutôt fort sympathique. Dès demain, vous pourrez continuer de vous promener à Lyon, puisqu'il y a malheureusement besoin encore de manifester pour dire stop au génocide en Palestine. Donc, ce sera samedi de 14h à 17h. Et j'ai un petit peu peur de ne pas trouver lieu, je suis surpris.
C'est terreau habituellement, mais j'en ai pas la certitude, évidemment, parce que je n'ai pas l'information non plus.
Et oui, mais une fois encore, rendez-vous sur Rébellion et sur si vous utilisez les réseaux sociaux, vous trouverez, en tout cas, c'est de 14h à 17h, une marche à Lyon. Si jamais vous n'êtes pas à Lyon, mais que vous n'êtes pas si loin, il y a un rassemblement des fiertés, ça c'est à Tarare, ce sera de 16h à 20h, avec un rassemblement à la place du marché, avec un discours d'ouverture du collectif Pride Tarare, les associations Niofar et Pluriel, toujours sur la place du marché, des stands d'information et de rencontres. Et à 18h, une séance spéciale Mois des Fiertés LGBTQI+, en partenariat avec le cinéma Jacques Perrin, et donc la diffusion du film Pride. Si jamais vous êtes quand même à Lyon, ou après, vous pourrez aller à la soirée Donna Summerway à l'Amicale du Futur, en soutien à la réédition collective et mystérieuse du manifeste cyborg de Donna Haraway.
Et on a trouvé l'information, je vous ai menti en réalité, puisque demain, la manifestation en soutien à Gaza, elle part à 14h du métro sans souci. Puisqu'en fait, elle va, je pense... non, vrai, je raconte n'importe quoi.
En tout cas, elle part du métro sans souci.
Elle part du métro sans souci à 14h, et c'est bien ça.
Et sinon, le mardi 17 juin, il y a une soirée à l'Amicale du Futur qui s'appelle le comité Affaires Sensibles, c'est quoi ? Donc non, c'est pas un rassemblement d'auditeuristes de France Inter pour tout ça, mais c'est un collectif qui s'est monté, surtout sur des affaires, si j'ai bien compris, de violence policière. En tout cas, qui va finalement présenter bien mieux que moi ce qu'ils et elles font. Et du coup, c'est à 18h à 23h30 à l'Amicale du Futur. Au-delà de tout ça, on n'en doute pas, il y aura d'autres rassemblements. D'ailleurs, on peut déjà en annoncer un. Il y en a un dimanche, rassemblement contre l'extrême droite à l'appel de l'intersyndicale. Je n'ai ni l'heure ni le lieu.
J'ai
en tête.
L'heure, ah. C'est 14h30, et le lieu, c'est, je dirais, probablement Jean Massé, variante manufacture des tabacs.
En tout cas,
grosse prise de risque ici sur une manif syndicale.
Voilà, il y a cette manifestation à l'appel de l'intersyndicale et on n'en doute pas, il y aura d'autres appels pour d'autres manifs contre l'extrême droite et dans l'extrême droite, évidemment, le RN qui malheureusement est beaucoup trop présent au quotidien dans nos vies aujourd'hui. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Ouvrez vos téléphones et vos ordi pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Alors, comme on avait une envoyée spéciale ce soir, le standard était occupé à répondre. On n'a pas pu donc recevoir d'appel pour nous dire ce que voulait dire ACAB, mais on a reçu un SMS. Et ce soir, il faut savoir parler anglais, puisque ça veut dire All Colors are Beautiful ou All Cops are Bastards.
Finalement, on vous laissera choisir ce que vous préférez. Et en tout cas, il est 19h56, ce qui veut dire que c'est bientôt l'heure de la prochaine émission sur Radio Canu. C'est une émission de quoi déjà qui nous poursuit ?
C'est une émission de rap.
Voilà, du gros peura, peut-être avec des grosses guitares disto et de la grosse batterie.
On voit arriver l'équipe.
on le voit. Donc si vous aimez le flow, si vous aimez les boîtes à rythme, c'est the place to be finalement.
Exactement, et ça nous permet quand même de faire une dernière annonce. En fait, on fait un petit peu traîner parce qu'on a un camarade de l'émission Minuit Décousu dans le studio qui est en train de nous enregistrer, hein. C'est un petit peu comme ça les coulisses finalement de Radio Canu.
C'est l'inception de Radio Canu qui enregistre Radio Canu pour être diffusé sur Radio Canu.
Ouais,
c'est
en fait
concept.
Exactement, de la même manière qu'ensuite on se rend à des manifs pour les enregistrer, des fois on les organise pour pouvoir les enregistrer, comme ça vous savez tout. En réalité, donc le camarade est venu nous enregistrer puisque l'équipe de Minuit Décousu prépare un documentaire sur comment on fait de la radio à Canu ou un truc comme ça, je crois, qui sera diffusé a priori le 22 ou le 23 juin, c'est-à-dire pour la Nuit Décousu numéro 4 qui commence à 11h le samedi 22 juin et se termine aux petites heures le 23 juin. Et cette nuit-là, je crois qu'il y aura la diffusion d'un documentaire sur comment on fait de la radio à Canu, et là peut-être qu'on va avoir la passation en direct.
En tout cas, il y a un super VRP de Nuit Décousu qui est présent dans les studios, de toute évidence.
On fait du VRP. Et voilà qu'arrive notre ami de l'émission de rap.
Voilà, Noise Pollution, du rap pendant deux heures. Vous allez pouvoir faire du breakdance. D'ailleurs, je crois qu'il en fait aussi dans les studios, mais ça n'a pas encore été diffusé.
Il est arrivé en dansant sur la tête. On est quand même plutôt sur du talent, quoi.
Et nous, en tout cas, vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. On fait traîner un peu pour le générique, non? Peut-être. Oh, oui. Non, il y aura les bandes continues. Il n'est pas si près que ça, finalement. Et ben, ma foi, passez un beau week-end, passez une bonne semaine. Vous allez avoir un tout petit peu de bande continue avant d'écouter beaucoup de hip-hop. Et à la semaine prochaine.
Ciao.